Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Histoire d'en rire, le podcast avec un titre de merde. Mais au moins j'ai appris une chose, c'est que maintenant il faut appeler un chat un chat. Et du coup les gens ils cliquent pas si tu dis tiens ça s'appelle Sartre et que tu parles pas de Sartre. Voilà, du coup Histoire d'en rire, on parle d'histoire, on en rit. Histoire d'en rire, voilà. J'ai perdu tout le monde à la table parce que j'ai changé l'intro. Voilà. Bienvenue dans notre podcast moyennement historique et moyennement drôle avec Eleanor Jenkins.
Coucou.
Avec Ariel Bitume.
Bonjour.
Avec Benjamin.
Salut.
Qui?
Benjamin.
Qui ça?
Benou. Benji.
Ben.
Moi je connais plus
ben.
Le nom de Casanova, mais après.
Avec Casanova. Si vous n'avez pas la référence, allez écouter l'émission de la semaine dernière, vous serez pas déçus. Abonnez-vous et mettez-nous 5 étoiles parce que sinon on peut pas aller jouer au poker et c'est notre sport préféré autour de cette table. All in sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music et même YouTube. Voilà, plein de choses. Benjamin, on a un invité qui aurait dû venir, je le vois pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est pas venu?
Eh bien parce qu'il est mort aussi.
Oh non, toutes les semaines.
Quand je vous dis je suis tombé par terre, c'est la faute à
Voltaire.
Quand je vous dis je suis tombé dans le ruisseau, c'est la faute à
Rousseau.
Et quand je vous dis je suis tombé sous le charme,
Christophe Maé.
Oui.
Et non, c'était. Et quand je vous dis je suis tombé sur une belle couillonnade, c'est la faute au Marquis de Sade.
Ah.
Et c'est le personnage historique d'aujourd'hui.
Ah.
Marquis de Sade, écrivain et philosophe sulfureux du XVIIIe siècle, tellement sulfureux qu'il a passé 27 ans de sa vie sur 74 derrière les barreaux. Tellement sulfureux que Sade a donné le mot sadique à cause de ses mœurs et écrits. Son livre le plus connu est « Les 120 journées de Sodome » où nous suivons quatre aristocrates ignobles accomplissant perversion et supplice sur leurs victimes. Tout ça dans un château.
Sauf que ça mange pas de pain.
Sauf que ça mange pas de pain, oui. C'est la quatrième journée. Œuvre censurée et aux descriptions abominables, c'est pour ça que je ne vous en lirai pas des extraits. À la place, je vais vous parler d'une œuvre moins connue du Marquis de Sade, qu'il a écrit en parallèle, Les 120 journées de Michel, où nous suivons le narrateur, un dénommé Michel, qui arrive par erreur au château en pensant que c'était là que devait se dérouler une convention de philatélistes. Donc je vais vous lire quelques extraits du livre. Jour 1. Je suis bien arrivé au château. Hâte de partager ma passion des timbres. Jour 7. Ça fait désormais une semaine que je suis au château et les gens se baladent à poil. Comment peuvent-ils transporter leurs timbres s'ils n'ont pas de poche? Jour 12 à 44. Aucune idée de pourquoi je suis toujours là. Sacrez-moi, ma passion des timbres me fait faire des choses impensables. Ce sont les copains du club de philatélie qui vont rire. Jour 45. Ok, il torture des gens. Je soupçonne que je ne vais pas voir l'ombre d'un timbre. Jour 46. Ah, quelqu'un installe une table. Ça doit être pour un stand de timbre. Hâte de voir ce qu'ils ont en stock. Jour 47. Ok, il torture des gens sur la table. Jour 49. J'ai demandé à l'un des aristocrates quand se déroulera la convention philatéliste. Et il m'a dit que ce n'était pas ici, mais dans le château d'à côté. Quel bêta je fais. Mon bon vieux Michel, toujours aussi étourdi. On pourrait même dire que tu es timbré. Ah ah ah, petite blague de philatéliste. Bon, à partir du jour 50 jusqu'au jour 120, Michel est à la convention de philatélie et ne parle que de timbre avec d'autres passionnés comme lui. Pas de torture, pas de meurtre, pas d'ignominie, juste des amateurs enthousiastes qui partagent ce qui les font vibrer. Par exemple, saviez-vous que le timbre est une invention britannique? À l'époque, c'était les destinataires qui devaient régler le prix de l'envoi basé sur le poids. Donc souvent, les gens refusaient de payer une lettre trop chère. Roland Hill, le responsable des postes, a donc eu l'idée du timbre pour permettre au système postal de continuer à marcher correctement et de manière plus juste. En conclusion, la philatélie est un domaine passionnant qui ne comporte aucune perversion ou torture. Bravo à tous les philatélistes. Merci et à la prochaine.
Sauf que quand ça a plus de dents, ça se vend beaucoup moins cher.
Oui,
c'est un petit peu comme les esclaves sexuels. Finalement. Merci beaucoup Benjamin. Allez, on est parti pour des questions. Je commence par deux questions. Je vous rappelle que nous jouons. Le perdant doit raconter une honte de son enfance. On est parti pour deux questions. Un jour, Nietzsche, vous voyez?
Oui.
Non.
Il prend...
Je sais pas qui c'est un philosophe.
Oui.
Oui.
Voilà.
Un jour, il prend sa calèche. D'accord. Mais qu'a-t-il fait lorsqu'il a pris sa calèche, lorsqu'il a vu son cocher fouetter son cheval pour faire avancer la calèche?
Il a eu l'idée de au-delà du bien et du mal.
C'était plutôt en fin de carrière.
Il a demandé est-ce qu'il le fouette lui?
Non.
Il a inventé un truc?
Non.
Non, il a dit quelque chose.
Il y a eu une réaction.
C'est là qu'il
a pleuré.
Il a pleuré, effectivement, bravo. Il a pleuré parce que son cocher faisait du mal au cheval. Il a engueulé le cocher et il a fait un gros câlin à son cheval avant d'aller en hôpital psychiatrique.
Mais attends, il s'était jamais rendu compte avant qu'on fouettait les chevaux?
Non, mais il est devenu fou à la fin de sa vie. Il a fini en hôpital psychiatrique et peu à peu, il a commencé à avoir des réactions un petit peu pas prévues. Et une des premières réactions, ça a été... Bah,
Il se comportait comme une femme. Et à l'époque, c'était l'hystérie, donc c'était l'asile psychiatrique. Voilà.
Et effectivement, et comme je pense dans sa vie, il a dû voir 120 000 cochers fouetter des chevaux. Et là, ce jour-là, il a fait « Oh non !»
C'était la cerise sur la cerise.
La cerise sur la cerise, exactement. Bonne réponse de Benjamin, bravo. J'aurais pas cru que vous trouviez...
La cerise sur la cerise, c'est aussi quand tu poses tes testicules sur les paupières de quelqu'un.
C'est vrai?
Non.
Ok. Autant je trouve que c'est une pratique un peu nullos, mais bon, c'est comme la branlette espagnole, ça fait un peu rêver, c'est hyper décevant.
Ouais. Mais attendez, parce que regardez, imaginons que cette pratique doit très certainement être pratiquée par des gens. Est-ce que les testicules, ils tombent pile sur les deux yeux?
Eh bien écoute, vu qu'on est à la radio, qu'on n'a pas d'image, on peut essayer.
Le problème, c'est qu'on a tous des lunettes ici.
Et moi, j'ai pas de testicules.
Elle a pas de lunettes. Et nous, on a des testicules. Donc, il y a un truc qui est en train de se fomenter très clair, tu vois. De qui sort ses couilles et de qui l'a sur le nez.
J'ai l'impression que ça va faire comme dans Indiana Jones. Si elles sont parfaitement adaptées, ça va déloquer une petite trappe où il y aura le trésor derrière, quoi.
Et je vois très bien où est sa petite trappe. Et je vois très bien le type de trésor qu'on y trouve. Qu'est-ce qui est historique et qui allait à 25 km/h?
Une voiture? La première voiture?
On y est presque.
La première avion.
La première smart.
La première avion, la première roue
avec laquelle il jouait avec un bâton.
C'est 25 km/h, c'est ultra vite.
Les enfants dans la cour de l'école.
Il y a des accidents, il y a des gens qui sont pris les.
Non, on y est presque. Non, mais c'est un événement. Quel événement historique allait à 25 km/h alors, plus précisément?
Quoi?
Quel événement?
Le premier avion?
Tu y es presque.
Le premier essai de voiture?
Le
premier moteur?
Non.
Le premier cheval?
Non, mais non. Reprends ta réponse, la
première voiture, le premier essai de
la
voiture
première
en route.
Formule 1? Ah. La première Formule 4?
Non.
Le premier kart?
Non, formule mieux ta réponse.
La première Formule
voiture
1.
De course.
La première
voiture de course. Automobile,
non.
De course automobile.
Non.
La première voiture automatique
historique allait à 25 km/h.
Ah, les 24 heures du Mans?
Non. C'est quoi les 24 heures du Mans?
La première course automobile. La première course automobile
au monde, les voitures allaient à 25 km/h. Et les gens disaient Ouais, il le dépasse, oh mon dieu. Voilà. Donc ça devait être un petit peu moins surprenant que Squeezie et sa Formule 4.
Ouais.
Voilà. Et les femmes qui savent pas conduire.
Bad
buzz.
Coupe.
Non, bon, on coupe pas, mais c'est une blague, bien entendu. Les femmes savent conduire comme les hommes.
Tu m'as jeté un regard là, comme si.
Comme si t'avais pas ton permis.
Ouais. Et comme si là, on était en train de s'organiser avec ma mère pour qu'elle nous prête la voiture et que c'est Davy qui va la conduire.
Personne n'a la ref.
Je leur dis, c'est ce qui va se passer. Parce que ma mère a plus confiance en Davy qui n'a jamais conduit sa voiture que moi.
Mais toi, t'as déjà conduit sa voiture et t'as reculé dans un mur.
Oui.
Toi, t'as calé sur l'autoroute.
Pas avec sa voiture, c'était une voiture manuelle.
Ah bah ça va alors.
Bah oui, je peux pas caler avec sa voiture.
Éléanor, est-ce que tu aurais une expression ou une origine à nous expliquer?
Ah oui, vous connaissez l'origine de l'expression « il faut que vous sachiez ».
Il faut que vous sachiez. Mais ça n'existe pas, il faut que vous sachiez.
C'est une blague en fait, c'est pas ma vraie expression. C'est Amélie Nethen dans les. Je crois que c'est
sur
dans
TikTok, c'est ça?
Non, c'est dans Secret Story.
Ah, bah oui.
Elle est au confessionnal et elle fait il faut que vous sachiez que Nabila, c'est pas que. Voilà, et tout le monde le reprend et je trouve ça très drôle.
Nabila était dans Secret Story?
Non.
Non, c'était dans Les Anges peut-être.
Ah oui.
Ouais. Voilà.
Excusez-moi. Était dans L'amour à l'aveugle.
Oui,
au début.
L'amour était.
Ah oui, c'est vrai.
On l'avait vu ensemble le premier épisode. Je m'en souviendrai toujours.
Et on pouvait la reconnaître. au bruit du plastique.
Non, et non, parce qu'elle n'avait pas la même tête avant.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais, c'est après, ouais.
Elle était... ouais, elle avait 17 ans dans cette émission.
Mais t'as le droit de faire ça à 17 ans.
Elle avait menti, je crois.
Ouais, je crois, ouais.
Venez, on fait un podcast sur Nabila.
Comme la meuf dans What's Up Show. Qui avait menti sur son âge.
Ah, ouais. Ah Mila Kunis.
Ouais. Ah ouais, elle avait fait croire qu'elle était majeure, elle était pas majeure.
Mais ça me fait toujours marrer parce que tu sais, genre, tu dois signer des contrats, des trucs comme ouais. ça, t'es obligé d'avoir une pièce d'identité, je pense. Tu peux pas. Tu sais, genre, c'est un peu.
Aux États-Unis, les gens de pièce d'identité pour avoir de l'alcool, ils en ont. Hein.
Ouais, mais je pense que c'est un peu une légende urbaine, tu vois, un peu pour.
Bah, envoie-lui un mail, demande-lui.
Ouais.
Eleanor, tu as une rubrique
Qu'est-ce qui se passe quand il y a quelque chose d'imprévu qui arrive? On dit quoi? On dit, désolé, je suis en retard, j'ai eu.
Un empêchement.
Piscine.
Non, j'ai eu un.
Un empêchement.
Non.
J'ai eu
un orgasme. J'ai eu une cerise sur mes cerises.
J'ai eu un.
J'ai eu un accident qui m'a coûté mes deux jambes.
J'ai eu un pépin.
Ah oui.
Ah oui.
Ça vient de pépin, bref.
À l'origine, avoir un pépin, ça voulait dire tomber amoureux. Mais dans le langage argotique du 19e siècle. Raconte Agnès Pierron, toujours
ah,
là.
Ah, mais t'es sûr, avoir un pépin, le truc d'être amoureux, c'est pas la chanson là, avec la clémentine qui a, ou le citron qui a un pépin, la chanson. Il y a une chanson d'enfant où c'est une mandarine qui tombe amoureuse et qui a un pépin qui tombe enceinte.
Pas selon Agnès Pierron.
Oh, d'accord, moi si c'est pas selon Agnès Pierron.
Non, selon Agnès Pierron, c'est un fist ou un truc vraiment
dégueulasse.
Ouais, ouais.
Avoir avalé le pépin, c'est tomber enceinte.
Ah bah...
Entre parenthèses, c'est brûlé au cierge de Saint-Pierre.
Oh, eh, dis-donc, je me suis brûlé au cierge de Saint-Pierre.
Être en cloque avec un harlequin dans la soupente. Ça, c'est son expression.
Ouais. Un polichinelle dans le tiroir.
Bref, en fait, entre avoir le pépin et l'avoir avalé, il n'y a que l'espace d'un écart de conduite.
Oui, allez.
Et si t'avales le pépin, t'es pas enceinte. Hein.
Mais attends, oui, ben non. Bon, mais j'ai dû couper le passage ou...
Qui expliquait celui
qui tenait tout, ouais. En fait. Ouais, ouais, c'était,
alors,
ouais,
pour revenir à Pépin, le bref, je crois que c'est le bref parce qu'il a régné très très peu de temps. Il est mort très vite. Mmh. Voilà.
Bah, pour finir, mon truc, en fait, avoir un pépin, c'est du coup, tu tombais enceinte, donc tu pouvais pas faire les trucs, donc t'avais un pépin.
Bah oui, bien
donc,
sûr.
C'est de
donc
là...
quand t'es en retard, tu dis, je suis tombée enceinte, en fait.
Bah, en gros, ça veut dire ça, ouais.
Ouais.
D'accord.
Bien, merci beaucoup, Eleanor.
Bah, de rien, ça fait plaisir. Hein.
Ouais. Avoir un enfant, pas toujours, mais on est parti pour certains, oui, a priori.
Ça va.
Ça va. Quelle est la particularité de la ville de Sétenil en Espagne, Ariel? Toi, tu vas tout le temps en Espagne.
Ça, attends, c'est en Andalousie ou en Catalogne?
Il n'y a que deux régions en Espagne.
D'accord, ok. Non, parce que les Catalans, enfin bon, bref, on va pas rentrer dans ce débat.
Ah ouais, ah, d'accord, je vois que t'es anti-catalan, d'accord.
Ah oui, donc t'as vraiment embrassé l'Espagne, toi.
L'Andalousie, ouais. Ah, putain, les Catalans, ouais. Ouais.
Il y a une espèce de festival très particulier là-bas.
Non.
C'est religieux?
Non.
C'est pas là où il y a il y avait un portrait de Jésus, la vieille, il l'a repeint.
C'est en Italie, je crois, ça.
Non, c'était en Espagne.
Ah, c'était en Espagne. Ouais. Bon, ouais, non, c'est pas ça.
C'est pas ça.
Non.
Okay. Est-ce que c'est une ville qui n'existe pas?
Non, c'est une ville qui existe.
Ah, c'est pas une ville où on tournait des films, des western spaghetti, des trucs comme ça?
Alors, non, mais j'ai vu un film. C'est marrant, j'ai écrit cette question. Et genre, un mois plus tard, j'ai vu un vieux film qui était tourné en Espagne. Et c'était tourné dans cette ville. Et je fais, oh, du coup, je le vois en vrai, ce truc.
D'accord.
Mais il y a un film au moins qui est tourné là-bas.
Il y a un monument.
C'est une ville taillée dans la montagne.
Exactement.
Ah, troglodyte. J'ai dit le mot troglodyte.
À moitié troglodyte, en fait.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Il y a un rocher immense. La ville a été construite autour du rocher et certaines des maisons sont dans le rocher.
Tant dire un truc de Final Fantasy, quoi.
Exactement. C'est assez fou. Hein. Et le film, justement, se passe... dans cette maison. Et donc tu vois une maison troglodyte avec un puits de lumière qui vient du rocher au-dessus.
T'adores les puits de lumière en plus.
J'adore les puits de lumière. J'en ai un chez moi. Ouais, non, excusez-moi. Mais voilà.
Quand t'en as un, après tu peux plus t'en passer.
Bah
quoi.
Non, voilà, c'est des couches datant du Miocène. Ce village est surmonté de la ruine du château de Moriche où se trouve, et qui se trouve à côté d'une église. Voilà. Et ça se visite. Beaucoup de gens vont voir et c'est un village très très beau. Donc je croyais que tu connaîtrais Ariel.
Mais voilà. Je connais pas, mais en fait là où je vais, il y en a un qui, il y en a aussi un de village
dans la montagne.
Ouais, ouais. Donc,
je ouais, mais dans la région.
C'est ça, les Espagnols, ils ont vraiment pas de pognon. Ils font des trucs en briques rouges dégueulasses. Et bon bah, ils trouvent un rocher, ils en font une maison.
Ils vont un peu chercher la fraîcheur aussi.
C'est ça. En plus d'être pauvres.
Oui, c'est pour ça que certains vivent dans des terriers de renards.
Oui, oui, il y a beaucoup d'Espagnols qui vivent à même la terre. Oui. Ouais. Ils la mangent oui. et vivent dedans.
Ils creusent très très vite.
Ouais. Ah oui, la gastronomie est composée à 90% de terre. Hein.
Écoute, je suis allé à Madrid, j'ai rien trouvé de bon.
Bah, la vraie paella, hein, c'est avec de la terre à la place du riz.
Il y a quand même du petit pois. Hein.
Toujours, malheureusement.
Qu'est-ce qu'on ne peut plus visiter à Paris depuis 1907, sauf autorisation.
Les catacombes,
catacombes. Non, mais on
certaines parties des catacombes.
Les égouts.
Non.
Ah oui.
Non.
Y a... Les carrières.
Non.
La Bastille.
Avec les pierreuses.
La Bastille. Non.
C'est pas les bassins souterrains.
Un truc qu'on pouvait visiter en famille.
1907.
Et c'est souterrain.
Ah, ça devait être un truc un peu glauque, genre c'était pas là, genre un donjon où on torturait des gens à la tour de la. Un truc qu'on torture. Là où il y avait la guillotine, un truc de prison.
Non. C'est souterrain ?
Je crois que c'était près de la Seine, mais c'était pas souterrain.
Les quais de Seine ? Vers la Seine, vers les quais de Seine, c'est là où il y a des entrées vers les souterrains cachés de Paris qui ne sont pas les catacombes.
C'est pas ça.
Et qu'est-ce qu'on allait y faire en famille ? Il y avait quoi ?
Bah, en visite.
Ah, les journées du
parc. C'était pas genre des vieilles mines.
La morgue, bonne réponse, Eleanor Jenkins. Avant, jusqu'en 1907, la morgue était un lieu de visite où les gens allaient en famille. Tu pouvais y aller, visiter la morgue, voir les corps et tout ça, machin. Tiens, fraîchement arrivé. Et quand il y avait des meurtres célèbres, certains y allaient plus parce que tu pouvais voir le corps du truc du mec que tu avais vu dans le journal. Voilà. Et à partir de 1907, ben je trouve ça hyper tard.
Oui.
Ils ont fait quand même.
Ça se fait pas.
Quand même, les gens viennent avec des enfants. Bah, ouais. Je sais pas.
Non, mais c'était pour des raisons sanitaires, ouais. Je suis sûre.
Mais à chaque numéro de ce podcast, à chaque fois, je me dis, mais. C'était beaucoup mieux que Netflix en fait, tu vois. non, mais je veux dire, ça te formait, tu vois. T'es gamin, tu vas voir la mort, tu vas voir des cadavres.
Mais oui, c'est le dimanche.
Tu grandis, ça te fait grandir de 10 ans d'un coup, tu vois. T'es prêt à travailler, quoi. T'es à 10 ans, t'es prêt à aller à la mine quand t'as vu ça. C'est bon, t'as vu des cadavres, c'est pour t'habituer à ta vie.
C'est pour ça, dans les archives de l'INAC, tu vois les enfants qui sont arrivés, ils ont des gueules de vieux.
Ouais,
c'est pour ça. C'est
ah ouais, ils ont vu le truc, ils ont vieilli d'un coup.
Ariel,
oula.
À chaque fois je te surprends. T'aurais pas un truc à nous dire bien par sûr. Rapport à des complotistes ou...
Alors par rapport à une croyance qui a été longuement colportée. Un fait célèbre, je vous demandais quel fait célèbre était totalement faux à propos du Titanic. Ça devrait fusiller.
Et il s'est fait fusiller en fait. quel fait célèbre? Bah qu'il était le plus grand bateau du monde.
Non,
qu'il était insubmersible.
Qu'il était insubmersible. C'était faux. Personne n'a jamais dit que ce bateau était insubmersible.
Ah, c'est après qu'on a dit ça.
Alors en fait, les constructeurs et la compagnie du Titanic, eux, ils n'ont jamais qualifié d'insubmersible. En revanche, les journaux spécialisés. Ils ont qualifié les matériaux utilisés pour la construction de quasi insubmersibles. Et du coup, après, bah, avec le
naufrage,
l'événement.
L'événement, les gens, ils ont dit, ah, le film. Il est insubmersible et tout. Mais regardez. Alors qu'en fait, personne n'a jamais dit nulle part.
Ouais, je pense que quand tu construis un bateau, tu peux pas vraiment te dire il est insubmersible. On sait jamais.
C'est vraiment
c'est comme
le
dire
truc
un,
de vente.
Ouais, c'est comme construire un avion et dire, tu pourras jamais s'écraser. Voire même ça te donne pas trop envie d'y aller, tu vois, des gens qui disent
clair.
Ça.
Ouais, c'est clair. Ah ouais, d'accord, je savais pas, c'est après quoi. Ouais.
C'est après.
Ok.
C'est...
Bon, écoutez, on fait il reste deux questions, et là c'est fou parce que là on a Eleanor qui a deux points, elle est en avance.
Oui.
Mais Ariel a un point et Benjamin a un point.
Ouh, là, ça...
Ah ouais.
On peut finir à égalité.
Ouais, et si vous finissez à égalité, c'est moi qui raconte une anecdote de mon.
Et t'en as des anecdotes
je
de honte.
Je dois en avoir, mais de mon enfance, de honte de mon enfance, je réfléchis et je sais pas trop. J'essaie de trouver un truc drôle, mais j'ai pas. Bon, bref. De quoi est mort Bizet, l'auteur de l'opéra Carmen, à 36 ans?
Est-ce que c'est pas lui qui s'est donné un coup dans le pied en voulant taper?
Ce n'est pas lui.
C'est lui.
Pas lui.
Il est mort de rire.
Non, il est pas mort de rire. Non.
Il est mort de d'orgasme, comme Félix Faure.
Non.
Il s'est fait tuer ?
Non.
Il est mort de lui-même.
Chagrin.
Alors, il est
il
a mort.
Pas eu besoin de quelqu'un d'autre.
Il est mort de maladie, mais c'est un peu à cause de lui-même quand même. C'est un peu sa connerie.
Il a couché avec un animal et il a chopé une maladie.
Il a mangé un pangolin ?
Ah non, non.
Il a
dû avoir une plaie, il a voulu soigner avec des trucs complètement cons, tu vois. Genre, il a mis de la terre, parce qu'il était en Espagne, il est sur sa blessure. Et ça a affecté.
Il vivait dans la terre, ouais, et il s'est blessé à une racine et est mort. Non.
Il est mort sur le Titanic.
Non.
Tu faisais non.
Mais c'est lié à l'eau.
Et il s'est noyé ?
Non.
Il a voulu faire.
Ah, il a trop bu d'eau un jour. Il a
non.
trop bu d'eau sur une journée.
Non.
L'hypothermie parce qu'il s'est baigné dans une autre fois.
Non.
Il est mort dans un sauna.
Il s'est baigné. Il est mort suite à une baignade.
Ah, une hydrocution.
Non.
Ah oui,
ah, il a une crampe.
Il a pas attendu deux heures après.
Il a eu une crampe.
Il était dans une eau sale et il s'est pas.
Du coup, une eau sale. Un Français.
La Seine, il s'est baigné dans la Seine.
Il s'est baigné dans la Seine. Il a fait moi je vais me baigner dans la Seine. Et il en est mort.
Déjà à l'époque.
Il y
avait comme ça.
En 1875, il est mort après s'être baigné dans la Seine à 36 ans.
Et tu te rends compte que là, Anne Hidalgo, pour les JO, elle veut.
Attends, elle veut passer du bizet. C'est le.
Non, mais elle veut que les.
Ah, Anne Hidalgo, hein, le bizet, il est mort à cause de vous.
Non, mais elle veut.
Tous
que
les chauffeurs taxi disent ça.
Elle veut que les athlètes.
Ouais.
Compétites.
Oui, compétites, ouais. Ouais, c'est ouais, ouais. Ouais. Dans la Seine, ils compétitent dans la Seine.
Dans la Seine. Non, mais c'est vrai, et c'est un vrai projet où ils vont nettoyer ou je sais pas quoi la Seine.
C'est impossible. Je crois pas une seule seconde. C'est dans moins d'un an, tu vois, genre,
c'est dégueulasse.
Allez, la dernière. Attendez, c'est qui l'a eu là?
C'est moi.
Ah bah, c'est. Non, c'est là. Ah non, c'est toi.
Ouais, c'est moi le truc de bizet. C'est dans la Seine.
Ah oui, c'est pas moi.
Merde, putain, 2-2. Ariel. Bon, tu l'auras pas, celle-là. L'élection de Maurice de Rothschild a été annulée. Pourquoi?
Parce qu'il a corrompu.
Attends, l'élection quoi, présidentielle?
Ouais, il a corrompu. Quoi?
Votes. Il a acheté
les grands
votes.
Électeurs.
Alors, il a acheté les votes. C'est clairement une réponse possible, mais c'est pas complètement la réponse. Ok, d'accord, c'est ça. Il a voulu acheter des votes. Mais alors,
d'enfants.
Par quel truchement?
D'enfants?
Non.
De morts?
Comment il a fait?
Des personnes décédées?
Non, non, non.
D'accord, il n'a pas donné de l'argent en fait, il a donné autre
Alors,
chose.
Alors, si.
Il a acheté, mais à des étrangers.
Non.
Pas des.
De la nourriture.
Non.
C'était en quelle année? Quelle élection?
Ouais, en quelle année ça se trouve? En fait, les Rothschild, ils ont racheté mon école. Et à la fin de l'année, on avait une remise des prix et il y avait au moins deux personnes de la famille de Rothschild et on montait sur scène et on devait leur serrer la main parce que quand on recevait un prix.
Une école de quoi?
C'était une école privée. À Paris.
Ah, d'accord.
Et ils l'ont racheté, et donc ça se trouve, je lui ai serré à la main à ce.
Entre 1920 et 1930, son élection a été invalidée en 1926, après des débats très houleux.
Mais élection présidentielle ?
Non, dans sa ville, je crois.
Bah,
député Haute-Pyrénées, je crois, un truc comme ça. Dans les Hautes-Alpes.
Donc il a acheté des votes.
Il a donné son argent.
Il a vraiment acheté des votes.
Directement à la pègre et la pègre s'est barrée avec.
Non.
Non, il est allé au bureau de vote et il payait les gens juste avant qu'ils rentrent dans l'isoloir.
Alors, c'est quasiment ça.
Il était dans l'isoloir avec eux.
Allez, Benjamin, le point. Il a envoyé des lettres à tous les gens de sa commune avec des sous dedans en disant « Votez pour moi !» Et les gens font « J'ai reçu de l'argent par la poste pour que je vote pour lui. »
Mais maintenant qu'ils ont l'argent, ils ne sont pas obligés.
C'est pas très malin comme technique.
C'est complètement débile.
Ça laisse trop de traces.
Voilà, donc du coup, il s'est fait choper. Voilà.
D'accord.
Bon, bah, Benjamin a gagné avec 3 points. Eleanor, seconde, 2 points. Ariel, un seul point.
Et
Ariel, tu dois nous raconter une honte de ton enfance.
Il y a peut-être celle de mon adolescence où j'avais de l'acné. Ça suffit, je pense. C'est un peu comme, tu sais, quand j'ai perdu mon mulet, j'ai eu mon acné.
C'est pour ça que ta mère te laissait le mulet, c'était le seul truc
qui protégeait
du délai.
Qui permettait de détourner l'attention,
ouais.
Surtout.
Et ton acné, tu l'as encore?
Ouais, c'est encore. C'est pas tout à fait réglé.
Non,
ouais, j'ai des problèmes à régler quand même.
Ouais.
Ah, j'ai pas. Parce que la barbe, elle cache quand même pas mal.
Moi, parfois, j'ai encore des petits boutons. Moi, j'en ai eu jusqu'à. Moi, j'en avais pas autant qu'Ariel, mais j'ai eu un peu d'acné jusqu'à mes 25 ans. Hein.
Oula!
Jusqu'à il y a 2 ans.
Moi, mes 25 ans, c'était il y a...
Ouais. Non, sinon il y a la fois où quand j'avais 16 ans, j'ai chié dans le dans le parking à Carrefour. Parce que c'est vraiment j'avais trop envie de chier.
À 16 ans.
Ouais, 16 ans. Et j'ai dû chier. Heureusement, il faisait un peu nuit, mais j'ai chié. Mais c'est une des premières fois que je chiais. Alors c'est, c'était l'hiver. Du coup, j'avais un long manteau. Ouais, vous avez tous compris la suite, je crois.
Il traînait
par terre. Voilà, il traînait un peu par terre. Et j'avais pas l'habitude de chier dans une position qui est.
T'avais pas l'habitude de chier dans un parking pas sûr. Non, ça, demande, ouais, ça demande un peu, tu vois, de pratique.
Ouais, technique, quoi. Ouais, technique. Du coup, bah, j'étais un petit peu malade, j'ai fait caca. Et puis, bah, quand je suis remonté en voiture, parce que oh, j'étais avec mon père. Donc.
Mais donc, mon père, quoi en attendant
bah, il m'attendait.
Mais il chie aussi.
Et, et là, je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement un peu de caca sur mon manteau.
C'est l'odeur
c'est
ou
l'odeur principalement qui m'a alerté.
Et c'est assez fou parce que aujourd'hui, t'es genre, tu chies dans les parkings de Leclerc, de Champ, de Carrefour. T'as aucun mal, t'as maîtrisé la technique.
Mais non, je suis easy. Moi, je
suis fait chier une fois dans un parking de supermarché, je crois, pour acquérir.
Ouais, 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 je crois. Heure de pointe, moi j'y vais. Hein. Ah, et là, j'étais entre deux voitures, maintenant je m'en fous. Ouais. Hein, c'est en plein milieu de l'entrée.
T'es comme un magicien, hop, t'es fait. Tu baisses ton pantalon, genre, tchac, tchac, et t'as chié, tu vois.
Ouais, c'est clair.
Eh bien, merci à tous, c'était vraiment super. C'est vrai que les émissions tournent de plus en plus autour de l'histoire du caca, et peut-être qu'on en fera une spéciale caca un jour, bien entendu. Merci de nous avoir suivis. C'est bientôt les fêtes de Noël. Passez des bonnes fêtes, des bonnes vacances, tout ça. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour peut-être l'avant-dernière de Histoire d'en rire. Voilà. Ciao.
Au revoir.
Ciao. Salut.
Au revoir.
Merci à tous.
Bye bye.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.